Vrai, merci les Valérie, merci les sœurs, merci Johanna. Pendant qu'on chantait, j'avais vraiment, je ne sais pas vous, mais ce sentiment que le Père était là et sa tendresse pour nous était tellement douce. Le Père nous aime tellement. Est-ce que vous avez ressenti cette tendresse du Père pour nous? Et il y avait cette pensée que nous sommes, c'est vrai, des femmes, voilà, de différents âges, mais des femmes plutôt adultes. Mais pour le Père, nous sommes aussi ses petites filles. Nous sommes aussi en nous, nous avons la petite fille en nous. Il y a une petite fille en nous qui a besoin d'un papa. Il y a une petite fille en nous qui a besoin de la tendresse d'un papa. Un papa forteresse, un papa sécurité, un papa indéfectible, un papa fort, un papa doux, tendre. Et ce papa-là, nous l'avons. Nous l'avons. Nous n'avons pas seulement un Dieu, nous avons un Père. Un Père. Et pendant les chants, il y avait vraiment sur mon cœur cette tendresse qui venait du Père. Et j'espère que vous aussi, vous l'avez reçue. Vous, les petites filles, bien-aimées du Père. Alors ce soir, bienvenue à toutes déjà, on s'est saluées, mais presque toutes. Mais ce soir, c'est donc la dernière fois qu'on se rencontre entre femmes. On remercie le Seigneur, comme a dit Valérie, pour tout ce qu'il nous a donné, ces moments qu'on a partagés ensemble depuis le début de la saison. On lui rend grâce. Et puisque c'est la dernière fois ce soir de cette saison, eh bien, je vais faire quelque chose de spécial. Je ne vais pas me servir de mes notes. En tout cas, je vais essayer. Voilà, pour avoir plus de liberté. Et je voudrais aussi remercier ce soir. Je voudrais remercier une certaine personne qui s'appelle Dina. Elle n'est pas là, hein. On peut parler d'elle, elle n'est pas là, Dina. Je voudrais remercier Dina. J'aime Dina. Je t'aime, Dina. J'aime Dina, c'est une femme merveilleuse. Je voudrais la remercier parce que c'est grâce à elle qu'on se retrouve. Excusez-moi, je suis émue. J'aime cette femme. Et je bénis le Seigneur. Elle nous aime, vous savez. Elle aime les femmes. Dina nous aime. Dina nous a à cœur. Et c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et je veux vraiment le remercier, te remercier, Dina. Et ton mari aussi, bien sûr. Je voudrais aussi remercier mon mari, à moi. Lui rendre hommage. Parce qu'il me soutient. Parce que quand je suis là, il garde les enfants. Parce qu'il est merveilleux avec moi. Et je voudrais vous dire que vous savez, le diable a voulu mettre l'inimitié entre nous et les hommes. Il a voulu mettre l'inimitié entre les femmes et les hommes. Vous savez, depuis le jardin d'Éden. Mais nous, dans ce groupe, dans cette église, nous refusons cette inimitié. Nous n'en voulons pas, nous la refusons absolument, cette inimitié. Nous n'avons rien en elle. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait, l'homme. Entrez, venez. Nous reconnaissons ce qu'il a fait. Il a créé l'homme et la femme. Et il a voulu que nous soyons unis. Cette unité, elle est importante, elle est fondamentale. Et si nous sommes là entre femmes et que Dieu nous bénit, nous ne voulons pas oublier les hommes. Les hommes qui nous entourent dans nos vies, les hommes de cette église. Et je voudrais vous demander donc de faire avec moi quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour prier pour les hommes de cette église, pour les hommes qui nous entourent? L'homme est précieux, son rôle est fondamental, il a une telle responsabilité. Il a été établi par Dieu comme chef. Il est la cible de l'ennemi. L'homme a besoin des prières de la femme. Alléluia! Remplissons notre ministère. Prenons une minute ce soir pour honorer ce que Dieu a fait. Lorsqu'il a créé l'homme, ce fut une gloire. C'est une gloire. Et rien n'enlèvera cette gloire qu'il a faite. Et nous allons bénir les hommes. Alléluia! Seigneur, notre Père bien-aimé, comme tu nous aimes, comme tu as pris plaisir en créant cette humanité, Seigneur, riche de l'homme et de la femme. Comme tu t'es réjoui, Seigneur éternel, comme tes œuvres sont insondables, comme elles sont magnifiques. Et nous t'élevons dans ta gloire, Seigneur. Nous ne pouvons pas encore considérer combien nous sommes des créatures merveilleuses. Mais Seigneur, ce que tu as fait, l'ennemi ne pourra pas le détruire. Parce que tu as donné ton Fils, Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir les hommes ce soir ensemble d'un commun accord. Nous voulons unir nos cœurs et vraiment déverser la bénédiction spirituelle, la bénédiction des lieux célestes sur les hommes de cette église, sur les hommes qui nous entourent, puisque nous sommes là dans cette grande salle. Nous en profitons pour bénir, Seigneur, toute cette assemblée d'hommes, qu'ils soient vraiment fortifiés, affermis, qu'ils puissent remplir pleinement le ministère que tu leur as confié, d'hommes spirituels, d'époux, de pères, d'amis. Ô Dieu, bénis chaque homme de cette assemblée. Tu établis, il est vrai, oui, tu rétablis, Seigneur. Seigneur, nous envoyons de tout notre être cette bénédiction. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un encore, une personne veut prier pour les hommes. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les femmes, certaines d'entre nous, pas toutes, mais nous avons été victimes de certains hommes dans nos vies. Ça a été mon cas. C'est le cas d'autres, je le sais. Mais nous ne sommes pas des victimes. D'accord ? Nous avons pu être victimes, mais nous ne sommes pas des victimes. Et ce que nous avons vécu, que Dieu restaure nos cœurs, que Dieu restaure nos âmes. Mais que nous soyons dans cette victoire de ne jamais dénigrer ce que Dieu a créé. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Alléluia, bénissons les hommes toujours, 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 tant que nous serons sur cette terre. Alléluia. Et je voudrais vous encourager. Nous allons poursuivre sur le thème qu'on a commencé la dernière fois. On a abordé la personne du Saint-Esprit et aujourd'hui on va pas voir des choses nouvelles, on va pas rentrer comme ça dans des nouvelles dimensions alors que c'est la dernière fois que nous voyons. On va consolider simplement ce qu'on a vu la dernière fois. Et je voudrais vous dire que pour celles peut-être qui viennent dans ces rencontres avec une attente, des attentes qui ne sont pas encore satisfaites, cette restauration que vous attendez dans vos vies. Parce qu'il y a des vies qui sont dans la souffrance ici, dans cette église, dans ce groupe de femmes. Il y a des vies qui sont bloquées en attente de choses qui ne viennent pas. Des vies qui sont sous des jougs aussi. Je voudrais vous encourager, vous dire que la victoire est à vous. Que votre Père sait. Que votre Père n'a pas oublié. Que votre Père œuvre dans votre vie. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il est encore à l'œuvre, il sera encore à l'œuvre jusqu'à ce qu'il atteigne son but dans vos vies. Je voudrais vous encourager. Il y a un après. Il y a une nouvelle page. Il y a une nouvelle vie après une certaine vie. Il y a un après. Oui, vraiment, j'en témoigne. Et le Seigneur est fidèle. Je témoignais de sa fidélité. Je vous encourage, mes sœurs, celles qui passent par des moments vraiment difficiles, que personne ne peut soupçonnez seulement vous et le Seigneur. Je vous encourage, mais vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des femmes qui appartiennent à un peuple de victorieux, un peuple de vainqueurs, et vous êtes victorieuses dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cette victoire, nous avons vu que c'est dans la vérité qu'on l'obtient. Aussi dans l'autorité, la vérité, dans le sens où on laisse le Seigneur tout dévoiler en nous. On laisse la lumière du Seigneur nous pénétrer pour voir, tout voir, voir ce qu'il veut nous montrer. C'est dans la vérité. C'est aussi dans l'exercice de l'autorité qu'il nous a donnée. S'approprier la promesse, c'est exercer l'autorité qu'il nous a donnée. C'est cela. Ça aussi, nous l'avons vu et nous avons souligné la dernière fois que c'est par le Saint-Esprit que nous exerçons cette autorité, qu'il n'y a pas d'autorité sans le Saint-Esprit. Alors donc, je vais simplement rapidement rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, le mois dernier, apporter quelques précisions, puis ensuite essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. La dernière fois, on a souligné que l'un des problèmes concernant le Saint-Esprit, c'est que on l'envisage bien souvent comme une puissance, vous vous souvenez, une force, mais pas comme une personne. Or, c'est une personne. La parole nous le montre. C'est une personne. Il est une personne. Mais même quand on a pris conscience qu'il est une personne, parfois, ça reste quand même difficile pour nous d'appréhender le Saint-Esprit parce que finalement, comme on n'a pas de relation avec lui, comme on n'a pas forcément appris qu'on pouvait communier avec lui, on ne l'a pas nécessairement appris, compris, qu'on pouvait communier avec lui chaque jour de notre vie, être en relation avec lui directement en tant que Saint-Esprit, eh bien, du coup, on n'a pas entretenu cette relation et on ne connaît pas le Saint-Esprit. Alors, on connaît des choses sur le Saint-Esprit. On a lu des livres, on connaît des versets, on a écouté des études sur le Saint-Esprit. Mais, vous savez, connaître, surtout connaître quelqu'un, c'est avoir eu un contact avec. Vous savez, on peut me parler très longtemps de Johanna si jamais je ne l'ai rencontrée, regarder dans les yeux, toucher, entendu sa voix me parler. Est-ce que je peux dire que je la connais ? Même si on me l'a décrite de A à Z, son caractère, tout ce qu'elle fait. Non, il faut ce contact. Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Et nous avons eu ce contact avec le Père. La plupart d'entre nous, quand nous sommes venus à Dieu, il y a des moments où il y a cet attouchement du Père. Là, comme tout à l'heure, quand nous avons chanté cet attouchement du Père, Dieu le Père, nous connaissons. Il y a cette connaissance, cette expérience de la relation avec Dieu le Père. Hein, ça vous dit quelque chose ? Oui, dans des chants, dans des moments de prière, c'est le Père qui se révèle. C'est le Père qui vous entoure, c'est le Père qui vous rassure. Mais aussi, nous avons aussi cet attouchement avec le Fils de Dieu, Jésus. Jésus-Christ, nous l'avons rencontré, il nous a touchés. Le Fils nous a touchés. Nous pouvons dire là, j'ai une fraîche révélation du Fils, Jésus. Jésus, ça veut dire quelque chose, c'est pas livresque. Mais avec le Saint-Esprit, ce doit être pareil. Lui aussi, nous devons arriver à avoir ce contact, cet attouchement particulier qui vient de lui. Voyez ? Voilà, il y a des moments comme ça où on est plus sensible au Dieu Père, au Dieu Fils et au Dieu Esprit. C'est le même Dieu. Mais c'est important que nous ne restions pas seulement sur le Dieu Père, Fils, en négligeant le Dieu Esprit. C'est cela que je veux laisser sur vos cœurs. Ne négligeons pas. Alors, qui est Dieu ? Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Qui est l'Esprit ? Qui est le Saint-Esprit ? La parole de Dieu, lorsque on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, combien de fois on entend cette expression, on lit cette expression ? Alors, dans l'Ancien Testament, j'en parle même pas. L'Esprit de l'Éternel, maintes fois. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, moi, j'ai trouvé 14 expressions disant esprit, l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Alors, qui est le Saint-Esprit ? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Christ. Regardez-moi, j'ai un esprit. Je suis Eva, j'ai un esprit. Dieu a un esprit. Il a un esprit. Est-ce qu'on peut me différencier, moi, de mon esprit ? Est-ce que vous pouvez dire, ça c'est Eva, son esprit ? C'est impossible, voyez ? J'ai un esprit, peut-on séparer Eva de son esprit ? Au contraire, c'est ce qui fait ce que je suis au plus profond de moi, n'est-ce pas ? Il en est de même. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Voilà qui il est. Donc Dieu a un esprit. Mais la Bible nous dit encore que Dieu est esprit. Alléluia! Il a un esprit. Mais plus encore, Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit, l'esprit, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est logique? Si Dieu est esprit, alors l'esprit est Dieu. Et nous savons donc maintenant qui est le Saint-Esprit. Alors, ne le voyons plus comme, voyez, un personnage, une facette un peu mystérieuse. Il est Dieu, tout simplement. Il est l'Esprit de Dieu. Pensez à cette image, vous avez un esprit, Dieu a un esprit, mais il est esprit. Ça veut dire que c'est ce qui le caractérise le plus essentiellement. C'est son esprit. Quel privilège d'avoir en nous l'Esprit de Dieu. Parce que nous réalisons cela, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alléluia. Voilà, donc il s'agit de prendre conscience en fait de ça, de prendre conscience. Qui est le Saint-Esprit? Voilà qui il est. Il ne s'agit pas de découvrir là, parce qu'on parle du Saint-Esprit, parce qu'on découvre, parce qu'on souligne, qu'on a besoin de l'entendre, il nous parle, et de lui parler, de lui répondre, d'avoir une relation avec lui. La Bible dit d'être en communion avec lui. Il ne s'agit pas de là d'inventer une nouvelle technique spirituelle, voilà, une nouvelle façon de faire. Maintenant, je vais prier que le Saint-Esprit, par exemple. Non. Nous nous laissons conduire. Il y a des moments où nous nous adressons au Dieu Père, au Dieu Fils, au Dieu Esprit. Même Dieu. Un seul Dieu. Ce n'est pas une technique de parler au Saint-Esprit, d'accord? Voilà. Hein, Dieu me garde de prêcher de telles choses. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Non. Alléluia. Donc voilà, le Saint-Esprit a sa place dans la Trinité, ce qu'on appelle nous la Trinité. Et là, je vais avoir besoin de mes notes finalement. Pour être sûr de ne rien oublier d'important. Voilà. Il a sa place dans cette Trinité, Dieu, Père, Fils, Esprit. C'est un mystère, hein ? C'est un mystère pour nous, ce Dieu en trois facettes, mais un seul. Pourtant, nous avons des éléments quand même dans la parole qui nous permettent d'identifier, est-ce que je peux dire, la personnalité, les différentes facettes, Père, Fils, Esprit. Déjà, rien que les noms Père, Fils, Esprit ont une signification qui permet d'identifier chacune de ces facettes. Mais la parole aussi nous montre, je ne vais pas faire une étude approfondie, différentes choses. Et je voudrais là laisser dans votre esprit des choses simples. Parce que pour bien connaître le Saint-Esprit, il faut aussi pouvoir bien le situer par rapport au Père et au Fils. Et faire la différence. Quel est son rôle? Quel est son ministère? Le Père a un ministère. Le Fils a un ministère. Qui le niera? Le Saint-Esprit a un ministère. Mais quel ministère? Si je devais résumer, je dirais que le Père, c'est... Je vais prendre l'image de, vous savez, la vigne. Dans la Bible, il y a souvent la vigne, le vigneron. Jésus nous parle du cep, etc. Prenons cela. Le Père, qui c'est par rapport à cette image? Le Père, c'est le vigneron. C'est le propriétaire de la vigne. C'est le propriétaire, c'est le vigneron. On pourrait dire qu'il est la source. Il est la source. Il est l'origine de toute chose. Et tout lui revient en même temps. Le Père, l'origine, la source, le vigneron, le propriétaire de la vigne. La gloire revient au Père. Tout est pour la gloire du Père. Le Fils, c'est le cep dans la vigne. Dans la vigne du vigneron, il y a le cep. Qu'est-ce que le cep? C'est ce qui fait la fierté du vigneron. Le cep, c'est pour ça qu'il a une vigne. Pour avoir un cep, des ceps. Le cep, c'est la fierté, c'est l'expression du travail du vigneron, de ce qu'il est Il est vigneron. Le cep exprime ce qu'est un vigneron. C'est sa fierté. Le fils, c'est l'expression de Dieu. C'est le but de Dieu. Le fils, c'est le but. Il exprime, c'est ce qui sort de Dieu, voyez. Le Père est la source, le Fils, l'expression. Il sort de cette source. C'est la parole. Il est dit qu'il est parole faite chair. La parole, c'est ce qui sort d'une bouche, n'est-ce pas? C'est ce qu'est le Fils par rapport au Père. Il est la parole qui sort de l'abondance du Père. C'est le cep dans la vigne. Mais il est le but. Il est le but. Quant au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, dans tout ça, bon, nous savons, nous sommes les sarments sur le cep, et le Saint-Esprit, lui, alléluia, il est la sève qui coule, qui donne la vie, oui, qui charrie cette vie, qui fait couler cette vie entre le cep et les sarments, afin de porter le fruit, le merveilleux fruit, la grappe, les grappes de raisin. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Il coule et pourtant sans lui, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de fruit. Le Saint-Esprit coule entre le cep et nous. Il apporte la vie, il apporte le fruit. Le Saint-Esprit est le moyen. L'origine, la source, le but, le Père, l'origine, la source, le Fils est le but que Dieu veut atteindre en nous. Et il a atteint son but. Qu'est-ce qui satisfait le cœur du Père? C'est le Fils. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est le moyen. C'est le moyen. C'est le moyen. Maintenant, une autre façon de vous montrer le Saint-Esprit. Je vais avoir besoin de quelques personnes. Une personne grande. Une personne grande. Qui est grand? Isabelle, viens. Maud, viens. Pas parce que tu es petite, Maud. Isabelle, tu veux jouer le rôle du père?
Oui.
Tu joues le rôle du père. Venez.
Venez.
Alors, le père, mets-toi ici, Isabelle, de l'autre côté. Voilà.
Le père, ton bras sur...
Sur le fils. Toi, tu es le fils. Voilà, ton bras sur le fils. Maintenant, il me faut le Saint-Esprit. Valérie. Valérie,
fais un conciliabule. Faites un conciliabule. Voilà.
Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, n'est-ce pas merveilleux? Unis, un seul Dieu. Alléluia. Moi, je suis la croyante. Maintenant, le Fils, tu vas... Le Saint-Esprit va se détacher, tu vas... Envoyez le Saint-Esprit comme ça et tu vas garder ta main comme ça vers moi. Tu envoies, voilà, tu envoies l'Esprit vers moi. Et l'Esprit vient. Moi, je suis la croyante. Le Saint-Esprit me touche. Je m'éveille à la foi. Et le Saint-Esprit reste toujours avec moi. Tout ce que je fais, je lis la parole, il est avec moi. Il m'inspire. Je prie, il est avec moi. Je loue, il est avec moi. Je marche, il est avec moi. Le Saint-Esprit m'envoie. Va prier. Envoie-moi. Avec plus de douceur, quand même. Il m'envoie prier, je prie. Mais il est toujours avec moi. C'est lui qui m'inspire. C'est lui qui est là. Quoi que je fasse, il est avec moi. Je combats l'ennemi. Il est avec moi. Toujours avec moi. Le Saint-Esprit ne me quitte jamais. Et je ne le quitte jamais. Mais c'est le Fils qui l'a envoyé. Le Fils qui est dans le Père. Alléluia. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, tout le temps. Il ne nous quitte jamais, dès l'éveil de notre foi, notre nouvelle naissance. Il est là, autour de nous, en nous. En nous, ça, on ne pouvait pas le... on ne pouvait pas le mimer, mais bon, vous avez compris. Alléluia, n'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? Où que j'aille, il est avec moi, envoyé par le Fils. Qui est avec nous sur la terre? Est-ce que le Père est avec moi sur la terre? Non. Le Fils est avec moi, le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est avec moi, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Donc le Père est avec moi. Le Fils est avec moi. En réalité, oui, ils sont avec moi. Oui, Dieu est avec moi. Mais par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Le Père trône dans les cieux. Le Fils est monté à sa droite depuis l'ascension. Il n'est plus sur la terre, physiquement parlant. Il est à la droite du Père. Mais par le Saint-Esprit, le Père est avec moi. Le Fils est avec moi, en tout temps, en moi. En tout temps. Alléluia. Merci. Ça, nous devons en permanence le garder à l'esprit. Ça doit devenir un état d'esprit permanent. Le matin, je me réveille. Le Saint-Esprit est avec moi. Il est en moi. Le Seigneur est en moi. Le Seigneur envoie sans arrêt son esprit. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de... C'est la volonté. Vous avez vu, le Fils, il envoie. Il a dit, je vous envoie mon esprit. C'est sa volonté que le Saint-Esprit, que son esprit soit avec nous. Son esprit est avec nous. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, il y a vraiment dans cette prise de conscience du bonheur. Mais du bonheur. Le bonheur de ne plus jamais être seul, parce que nous ne regardons plus là-haut. Quand nous avons besoin de Dieu, soif de Dieu, est-ce que nous regardons au ciel ? Non. Mais non. Il est en moi. Je ne regarde pas. Je n'appelle pas. Seigneur, viens de quelque part. Seigneur est quelque part, il faut qu'il vienne. Non. Il est avec moi tout le temps. C'est du bonheur. Je ne suis plus jamais seule. J'avais besoin de cette amitié. J'avais besoin de cet ami. Tous les jours de ma vie, à chaque instant, il est avec moi. Il est bon de lui obéir aussi, car le Saint-Esprit nous donne des directives, il nous guide. Nous sommes faits pour lui obéir. Vous savez quelle joie d'obéir. Souvent l'obéissance a une connotation un peu... Mais quel bonheur d'obéir. Si vous saviez comme nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour ça. Il y a en nous, quand on le découvre, une joie indescriptible à obéir à un si bon maître, à obéir à Dieu, à obéir à tous ces influx qui sont en nous. On a besoin de lui obéir, on aime lui obéir. Et lui, combien il aime être en nous. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que le Seigneur prend plaisir à être en nous? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Nous, nous disons, c'est un privilège pour nous, Seigneur, que tu sois en nous. Mais dans l'autre sens, savez-vous que Dieu nous aime tellement qu'il honore nos corps? Il les a créés, il les aime, il chérit ces corps. Nos corps sont aimés de Dieu. Il vient habiter en nous. Dieu aime habiter en nous. Il aime demeurer dans l'homme, dans la femme. Il aime l'être humain, si vous saviez comme il aime l'être humain. C'est pas juste, il faut que je les sauve, donc voilà, ils ont péché, il faut que je vienne. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Hein. Il faut que je vienne habiter en eux, parce que là, vraiment... Non, c'était son dessein éternel. Il avait déjà, relisez Éphésiens, il avait déjà prévu de toute éternité de faire de nous sa demeure. C'était là son plaisir, c'était là son dessein de venir habiter en nous pour que nous soyons unis, un en lui. Alléluia. Concernant le Saint-Esprit, il y a deux choses que je voudrais encore dire. Concernant son ministère. Qu'est-il venu faire, donc? Nous en avons déjà une petite idée. Je dirais deux choses principales. La première, c'est qu'il est venu glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne cherche pas à ce que nos regards soient fixés sur lui. Ce n'est pas son ministère d'appeler à ce que nous fixions nos regards sur lui. Au contraire, le Saint-Esprit vient pour éclairer à nos yeux, pour nous révéler Jésus-Christ, le Fils. Jésus l'a dit lui-même, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le rappellera. Il me glorifiera. Voilà le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Il vient pour conduire les gens à Jésus, l'évangélisation. Il vient pour faire croître en Christ, chaque croyant, c'est l'édification. C'est ce qu'il fait. Mais tout est pour Christ. Son ministère est centré sur Jésus-Christ. Centré sur Jésus-Christ. Alors nous devons connaître le Saint-Esprit. Nous devons jouir de sa présence, de sa communion. Mais c'est lui qui nous fait fixer les yeux sur Christ. Vous voyez, c'est notre partenaire, c'est notre associé, c'est notre ami. Par lui, nous découvrons, nous avons une plus fraîche révélation de Christ. Et Christ, lui, nous conduit au Père. Lorsque nous touchons le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est là, Christ est glorifié. Christ est glorifié. Et lorsque nous touchons Christ, Christ glorifie le Père. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Et lorsque nous arrivons au Fils, le Fils glorifie toujours le Père. Toute sa vie sur la terre, il a glorifié le Père. Il a parlé de son Père, il a glorifié son Père, il a vécu pour glorifier son Père. Et nous sommes donc conduits au Père, voyez. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que, pour moi en tout cas, c'est mon expérience, lorsqu'on chante des chants, la plupart du temps, les chants qui me touchent le plus, qui me font vraiment rentrer dans la présence de Dieu, c'est ceux qui glorifient Jésus-Christ. Mais vraiment, lorsqu'il est dit ce que le Seigneur est, ce que le Fils de Dieu est, ce que Christ est, alors là, moi pour moi, c'est le paradis, quoi. C'est radical, je suis transportée. Parce que là, le Saint-Esprit descend. Là où est Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Vous vous souvenez, dans les eaux du Jourdain, lorsqu'il s'est fait baptiser, lorsqu'il est venu à Jean-Baptiste, le Saint-Esprit comme une colombe. Lorsqu'il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là où il y a Jésus. Il est là où il y a Jésus, là où Jésus est confessé, là où Jésus est élevé, le Saint-Esprit agit. Il agit, il agit, il souffle. Il atteste. Toujours, toujours. Ce qui réjouit le Saint-Esprit, c'est de glorifier le Fils, toujours. Donc, il ne s'agit pas de fixer les regards d'un coup maintenant sur le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas ça. Mais il est avec nous, il est en nous. Donc, première mission, première chose principale concernant ce que le Saint-Esprit a été envoyé pour faire, c'est ça, glorifier le Fils et hâter l'avènement de son royaume, de son règne éternel, bâtir l'Église, attirer les âmes, voilà, convaincre de péché, de justice, de jugement, etc. La deuxième chose, c'est, nous l'avons déjà plus ou moins vu là, on n'a pas pu le mimer ça, venir habiter en nous. Venir habiter en nous. Ça aussi, c'est ce que Dieu l'a envoyé faire. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit sur la terre, à l'extérieur de nous, mais en nous. Il sera avec vous et en vous, a dit Jésus. Et je reprends le verset en question. Je n'ai pas préparé de diaporama aujourd'hui. Donc c'est Jean 14. « Et moi je prierai le Père, nous dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. En nous. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Il a créé Adam et Ève. Il l'a créé pour sa gloire. Il les a créés pour sa gloire, oui. Pour entretenir une relation avec eux, mais il a toujours voulu cette relation de l'intérieur. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Lorsque Abraham, Isaac et Jacob appelaient à Dieu et avaient besoin de prophètes pour avoir les instructions divines, Dieu était à l'extérieur. Maintenant, Dieu est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur. Est-ce que Dieu a atteint ce but qui est de demeurer en nous ? Ignorez-vous, dit l'apôtre Paul, que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné, alléluia, donné par Dieu, et qui maintenant, donc pas avant, mais maintenant, demeure en vous. Ignorez-vous, nous ne devons pas l'ignorer, il est venu en nous. Quand est-ce que Dieu a atteint ce but ? En Éden, ce but n'était pas atteint. Pendant tout l'Ancien Testament, ce but n'a pas été atteint. Quand est-ce qu'il a été atteint ? Après l'ascension, quand Jésus est monté et qu'il a prévenu qu'il allait envoyer son esprit. Tant que le Saint-Esprit n'avait pas été répandu sur la terre, Dieu n'était pas en nous, il n'avait pas atteint son but. Il faut que nous réalisions que c'était son but au Seigneur. Il voulait vivre en nous. C'est une, pour moi une démonstration merveilleuse de son amour pour nous. Est-ce que vous réalisez Dieu en nous? Je crois qu'on a besoin d'une révélation, vraiment. Parce qu'on est tellement habitué à l'entendre. Je crois qu'on a vraiment besoin d'une révélation, et je m'inclus, d'une fraîche révélation de ce que ça veut dire. C'est inconcevable. Dieu, tu le disais dans ton témoignage la dernière fois, le Tout-Puissant, en nous. C'est réel, hein, c'est pas juste des belles phrases que nous disons dans nos prières. C'est réalité. C'est un miracle merveilleux. Et ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit. Son esprit uni à notre esprit. Ça, c'est vraiment l'évangile. Ça, c'est vraiment l'évangile. Une fois que nous sommes là, l'habitation du Saint-Esprit, que se passe-t-il ? Ce verset de l'Apocalypse qui dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Ça, c'est merveilleux. Qui dit « Viens » ? L'Esprit et l'Épouse. Vous voyez comme il parle à l'unisson. L'Esprit et l'Épouse, l'Épouse, c'est nous. C'est nous, l'Épouse. L'Épouse, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. L'Esprit et nous, l'Épouse, parlent à l'unisson d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit, et disent ensemble, viens. Il s'agit de Jésus-Christ, de son règne, viens. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous communique ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et à l'unisson, nous sommes à l'unisson, nous sommes appelés à vivre à l'unisson avec le Saint-Esprit. À l'unisson, mais vous remarquez, ce n'est pas l'Épouse et l'Esprit qui disent « viens », c'est l'Esprit et l'Épouse. C'est l'Esprit qui conduit, oui. C'est l'Esprit qui conduit. L'Épouse ne pense rien, ne ressent rien, ne dit rien, ne fait rien sans l'Esprit. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, animés de l'intérieur par cet Esprit. Viens, et viens, c'est ça, hâter le règne, l'avènement du royaume. Nous avons besoin, vraiment besoin, de réaliser toutes ces choses, de prendre conscience. Je crois que c'est un... Oui, c'est encore l'œuvre de l'esprit, justement. C'est pour notre intelligence humaine, c'est impossible, en fait, de mesurer ce que ça veut dire que d'être l'habitation du Saint-Esprit. Mais c'est notre ami. Recherchons sa communion. Sachons qu'il est avec nous, toujours dans tout ce que nous faisons. Et que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne. C'est lui qui nous fait sortir le pied du filet de l'oiseleur. C'est lui qui a toutes les directions et toutes les réponses que nous attendons. Alléluia. Une dernière pensée. Toute dernière pensée, dans le passage qui est le nôtre dans Ézéchiel, Ézéchiel 37, 4 et 5, je vais vous le relire. Dans Ézéchiel 37, 4 et 5, il y a cette parole donc que le Seigneur adresse à Ézéchiel. Il me dit... Prophétise sur ces eaux, vous vous rappelez, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, donc voilà ce que je dois dire aux eaux desséchées. Ainsi parle le Seigneur, oui, merci Marido. Je vais faire entrer en vous un esprit, en réalité c'est mon esprit, on l'avait vu ensemble, la traduction exacte, et vous vivrez. Ce qui signifie, qu'est-ce que ça veut dire pour nous là ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mes bien-aimés ? Prophétiser, Dieu nous demande de prophétiser sur nos vies. Donc, là, moi, je comprends que Dieu agrée le type de prière qui concerne notre relation au Saint-Esprit. Il s'agit de prophétiser sur nous, sur nos vies, et les unes aux autres, à nos ossements desséchés, que l'Esprit de Dieu va venir, que l'Esprit de Dieu va nous remplir. Nous pouvons prier de cette façon-là. Nous pouvons appeler cela, appeler à cette relation, à cette communion avec le Saint-Esprit, à cette plénitude du Saint-Esprit. C'est une prière que Dieu attend de nous, qui nous demande de faire, que nous prophétisions ces choses aussi, avec assurance. Avec assurance, c'est Dieu qui dicte cette prière. Dis à tes eaux desséchées que l'Éternel fera venir son esprit, que l'Éternel te remplira, que l'Éternel te fera connaître la plénitude de l'esprit et que tu vivras. Nous pouvons et nous devons prier ces prières-là. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est. Combien de temps, Marido ? Oui, merci. Moi, j'en ai terminé pour ce soir. Je vais peut-être faire une chose avant qu'on passe un moment dans la prière ensemble, c'est vous laisser la parole, en fait. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses que vous aimeriez dire ou partager par rapport à, voilà, à ces questions-là, à ce qu'on a vu la dernière fois, cette fois-ci, ou même autre chose, si vous voulez ? Sur le Saint-Esprit, ou autre chose, encore une fois, si vous le souhaitez. Est-ce que, voilà, je vous donne la parole, mes chères sœurs. Je suis sûre qu'il y a d'abondantes richesses qui n'attendent que de sortir de vos bouches. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair, ce qui est apporté ? Est-ce que vous comprenez ? Victoria. Oui.
Je veux savoir de parler en langue. C'est, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai reçu, mais je sais pas. Je sais pas. Et du coup, je sais pas si c'est pas clair du tout, quoi. Je sais pas.
D'accord. Quelqu'un d'autre ? Je retiens ta question. Quelqu'un d'autre ? Alors, Victoria, je pense que c'est une bonne chose que tu abordes ce point, ce qui rejoint le baptême dans le Saint-Esprit, en réalité. Le parler en langue, oui, est important. C'est une des manifestations visibles, audibles, extérieures, du baptême dans le Saint-Esprit. Je dis bien une des manifestations possibles dont la Bible nous parle du baptême dans le Saint-Esprit. La Bible relie très clairement à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament le baptême dans le Saint-Esprit et le fait de parler en langue. Et là, je ne parle pas du don des langues, qui est autre chose, mais bien du parler en langue, si je peux me permettre, ordinaire. Le don des langues, c'est autre chose. Il s'agit de parler une langue qui vraiment existe, répertoriée, etc., qu'on n'a jamais pratiquée. Non, là, il s'agit du parler en langue ordinaire qui est donné à tout croyant. Alors, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. C'est un fait constaté. Des chrétiens, plusieurs chrétiens, sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais n'ont pas encore, je dirais, parlé en langue. Pourquoi ? Normalement, quand on est baptisé du Saint-Esprit, je dirais, ça va avec. On parle en langue assez naturellement, si je peux dire. Mais pour certaines personnes, ça ne vient pas en même temps, ou ça ne vient pas pendant un certain temps. Pourquoi ? Ça peut être différentes raisons. Ça peut être l'ignorance, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas été enseigné. On a peur, peut-être, de parler en langue. On peut avoir entendu des choses qui nous ont, voilà, un petit peu inquiétés. Pour certaines personnes, moi je me souviens quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, bon, les deux se sont produits en même temps, le baptême dans le Saint-Esprit et cette manifestation du parler en langue. Mais je me souviens que j'entendais auparavant certains chrétiens qui me disaient, moi c'était comme une douche, wouf, j'étais baptisée dans le Saint-Esprit et j'ai parlé en langue comme une explosion. Et ça. Moi pas du tout, personnellement. J'ai dû ouvrir la bouche et par la foi, Je sentais que j'étais différente. C'est peut-être ce que tu ressens, Victoria. Tu penses que tu es baptisée dans le Saint-Esprit. Tu es sûre? Oui. Oui. Mais tu sais, tu attends qu'il arrive. Mais en fait, le Seigneur, il va pas prendre ta langue pour la tourner dans ta bouche lui-même. C'est toi. Non, ça se passe pas comme ça. Tu es maître de ton corps. Donc tu es maître de ton corps, tu es maître de ta langue. C'est toi qui dois mettre en action ton corps pour exprimer ce qui brûle dedans de toi, ce qui est déjà en toi. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu commences. Quand tu sens que tu es visité, quand tu sens que la présence de Dieu est là, par la foi, tu peux commencer à parler en langue. Et le Saint-Esprit prend le relais. Non, ça part pas tout seul, pas forcément. Pour certains, oui, hein, attention, pour certains, ça sort un peu. Tu veux dire quelque chose, Dina ?
Des grandes phrases au départ, hein. Voilà. C'est pas forcément des heures et des heures, ça peut être un mot. On sent qu'il y a un mot qui nous vient, oui. Et bien on dit le mot, voilà. Et après il y a un autre mot qui vient et un autre mot, et des fois il y a certains, c'est plein de phrases, mais d'autres ça va être juste un mot ou deux ou trois, et petit à petit en priant, en parlant, en laissant l'esprit nous inspirer, eh bien, ça vient tout doucement. C'est pour dire que c'est des choses, enfin, c'est une expérience qui est un peu différente. Hein, c'est pas parce que une amie, ça s'est passé comme ça, que forcément, ça va se passer comme ça.
Je peux peut-être donner mon témoignage à ce sujet-là, parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'avais envie de parler en langue. J'avais envie de parler en langue et puis ça venait pas. Et un lundi, je jeûnais et je priais. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé, mais sans plus. Et puis j'ai continué à dire Seigneur, je voudrais bien le parler en langue. Ça a pris beaucoup de mois. Et un jour, j'ai étudié le livre de Donald G sur les dons spirituels. Le parler en langue, et il y a un chapitre justement où il est écrit que on peut trébucher pendant notre prière et que c'est le début d'un parler en langue. Alors j'ai dit mais Seigneur, mais ça m'est arrivé il y a quelques mois, donc je me suis remis en prière, j'ai demandé au Seigneur et je me suis dit allez, je me remets en condition là où j'étais il y a quelques mois. Un lundi midi, jeûne, prière, et j'ai dit Seigneur, je me mets devant toi, et puis je me suis rappelé ce que j'avais fait, et puis le parler en langue est venu là. Donc, je ne savais pas que je parlais en langue, mais ça, c'était ma langue qui avait trébuché, et c'était le parler en langue. Mais moi, ça n'a pas été une explosion ou quelque chose de. C'est un mot, et finalement, il faut l'entretenir, le développer.
Je venais dans l'église, ça faisait déjà un an que je fréquentais l'église, donc j'entendais les gens parler en langue et tout ça, mais ça s'est pas passé, c'est pas que j'ai voulu parler en langue tout de suite, mais disons que c'est suite à la prédication en fait, et j'ai été vivement touchée par la parole de Acte 2, donc c'était la Pentecôte sur le Saint-Esprit et tout ça, et quel est l'avantage d'avoir l'Esprit dans sa vie et tout ça. Donc vraiment, la parole m'a saisie et je voulais digérer cette parole. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu un temps au petit matin, parce que avec les trucs de la maison et tout ça, t'as jamais le temps. Donc au petit matin, je me suis placée devant la parole et puis je suis restée là émerveillée dedans. Je dis waouh, comme Eva a dit, Dieu qui nous envoie son esprit et tout ça. Je dis c'est fabuleux. Et je me suis souvenue de Pierre qui avait peur dans la cour, quand on lui a dit Jésus, machin, tout ça. Et moi, vraiment, je dis tout ça, c'est nouveau pour moi. Je rentre dans l'église, j'entends les gens parler, tout ça, c'est bizarre, tout ça. Donc, j'ai dit vraiment, j'ai peur. Donc, la prière que j'avais faite, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai peur de ça. Parce que c'est l'inconnu pour moi. Donc j'ai peur. Mais en même temps, quand je vois Pierre qui est devenu courageux, qui est sorti et qui a commencé à parler, c'était le tableau qui était devant moi en fait. Le tableau des apôtres, ce qu'ils vivaient, qui m'a donné vraiment envie d'avoir le parler en langue. Et j'ai dit au Saint-Esprit, je crois que tu es sensible. Parce que tout ce que j'entendais, c'est l'esprit, la partie la plus intime du Seigneur. Donc tu es sensible et tu vois ma sensibilité. C'était ça ma prière. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi j'ai peur de toi. Donc vraiment, je suis allée dans cette prière et je me suis endormie. Donc quand je me suis réveillée, j'étais en train de parler en langue en fait. Donc c'est encore une autre façon où j'ai reçu mon parler en langue. Voilà, c'est comme ça l'Esprit a fait pour moi. Donc je voulais t'encourager quoi.
Alors moi, c'est complètement différent. Moi, j'étais jamais venue à l'église. J'avais jamais entendu la parole de Dieu. Et mon expérience est particulière. Le Seigneur s'est révélé dans ma chambre, donc je ne connaissais rien à l'évangile. Et 8 jours après cette expérience-là, je prends le bus et je suis baptisée du Saint-Esprit dans le bus en allant au travail. Donc je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je parlais une autre langue dans le bus. Je ne pouvais pas descendre du bus tellement c'était puissant. Et c'est après, on m'a expliqué, tu as été baptisée du Saint-Esprit. Donc le Seigneur fait comme il veut, quand il veut et où il veut. Voilà.
Merci pour ces témoignages. En fait, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une grâce qui nous est donnée, qu'il est difficile de définir, c'est vrai, c'est difficile de donner une définition de ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est bibliquement, en tout cas, c'est totalement fondé. Hein, le terme baptême dans le Saint-Esprit est biblique, il est dans la parole de Dieu. Et on en voit surtout les conséquences, en fait. On en voit surtout les conséquences, les effets. Et les effets, ils sont, on peut dire qu'ils sont, d'une part, clairement en termes de dons spirituels. Donc, on ne peut pas exercer de dons spirituels. Je parle pas des ministères, hein. Je parle des dons spirituels, comme le parler en langue, la prophétie, etc. Le don des miracles, enfin, tous ces dons, sans être baptisé préalablement dans le Saint-Esprit. Donc les différents dons qui sont dans Romains et dans 1 Corinthiens sont en lien avec le baptême préalable dans le Saint-Esprit. Et ce que nous voyons aussi dans ces effets, c'est l'élément de puissance, évidemment. La puissance et le surnaturel. Le Saint-Esprit fait des choses que l'homme, que je suis, enfin la femme, ne peut pas faire. 3000 hommes convertis en une prédication, c'est quelque chose que qui peut faire ça? Je veux dire, quel homme, quelle femme peut faire ça? C'est surnaturel. La guérison également. Bon, ces dons, ces manifestations de l'esprit. Dieu, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frère, concernant ces choses, parce que ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit et qui sont utiles pour l'œuvre de Christ et pour l'avènement de son royaume. Ils sont utiles pour l'évangélisation, les signes et les prodiges qui accompagneront ma parole. Les incroyants voient les signes et les prodiges, même le parler en langue est un signe, nous dit la parole, pour les incroyants. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il faut abuser en leur présence de cela, mais c'est un signe. Les signes qui accompagneront ma parole pour attirer les âmes, afin que les gens disent « mais il y a vraiment un Dieu ». Et puis, l'édification aussi de l'Église se fait par ces dons-là. Il y a cet élément donc, de puissance surnaturelle qui est lié au baptême dans le Saint-Esprit comme un effet voilà, du baptême dans le Saint-Esprit.
Alors, on se demande pourquoi une langue? Alors, pourquoi le Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle une autre langue? Pourquoi faire? Parce qu'il pourrait être en nous sans qu'on parle la langue. Pourquoi faire? Alors déjà, quand on apprend une langue, vous savez que le vocabulaire est beaucoup plus riche. C'est-à-dire que, voilà, des fois, quand je me retrouve en famille, dans notre famille, il y a 3 nationalités. Alors on se parle, mais des fois on prend un mot de l'italien parce que c'est beaucoup plus, le mot il va mieux avec ce qu'on veut dire, et des fois on le dit en anglais, puis des fois on le dit en français parce que c'est encore mieux, et voilà, c'est le vocabulaire, il est riche. Et le Saint-Esprit, il nous donne une langue, parce qu'en fait, quand on parle cette langue-là, on est en train de glorifier Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire, et on glorifie Dieu dans d'autres mots. Parce que notre langage, vous voyez, après, quand on a dit on glorifie, on magnifie, voilà, on évite, il n'y a plus de mots, quoi. Et de parler en langue, on prend d'autres mots dont l'Esprit nous donne pour glorifier Dieu, glorifier Jésus. Et l'Esprit aussi qui sonde nos entrailles, c'est-à-dire que l'Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes, quoi. Il nous connaît de l'intérieur. Et des fois, on prie, on a besoin de prier, mais on sait pas quoi dire, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Ou on est mal, ou on voudrait demander quelque chose, mais on sait pas quoi. On sait pas quoi. Et à ce moment-là, on peut dire, Esprit, toi qui connais mes entrailles, profondeur de mon âme, eh bien, là, va vers Jésus pour exprimer ce qu'il y a en moi. Et ça, il le fait, c'est écrit hein, dans le Nouveau Testament. Hein, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très rassurant en fait, parce que comme on ne sait pas quoi dire, on se dit bon ben je suis à côté quoi, je sais pas s'il faut dire ça, s'il faut prier ça, je sais pas. Alors quand on dit Saint-Esprit, toi qui connais, qui me connais, toi qui sais les besoins que j'ai ou de quelque chose dont je suis en train de prier. Et quelquefois, on n'a pas tout le tableau. Hein. On connaît une chose, mais on ne connaît pas tout le contexte, on ne connaît pas ce qui se passe autrement. Eh bien, le Saint-Esprit qui sait, lui, il génère en nous cette langue qui parle, qui parle à Dieu. Et on sent, c'est une joie qui vient. Parce que on sait que lui, il a bien compris, il est en train de dire à Jésus nos besoins les plus profonds. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un gadget, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose pour décorer un petit peu, pour faire un peu exotique. Quoique il y a des fois des langues qui paraissent vraiment, vraiment bizarres. Hein. Mais bon, ça, c'est lui qui nous inspire. Et voilà, c'est des vraies langues en fait. Je pense que vous avez peut-être entendu des témoignages de personnes qui parlaient en langue et des personnes qui connaissaient pas, qui vient et puis dit bah c'est ma langue, c'est mon dialecte de mon village de je sais pas où. C'est des vraies langues, c'est des vrais mots, des vraies phrases. Et ça, c'est extraordinaire quoi. Ouais. C'est pas juste un petit truc pour décorer quoi, pour faire un petit peu exotique. C'est vraiment un but. C'est déjà quand on connaît deux langues, on se dit bah on peut dire une chose de deux façons. Des fois on a un peu plus de mots pour expliquer quelque chose. Eh bien le Seigneur il sait pourquoi. C'est quelque chose d'utile, de vraiment merveilleux. Et puis, bien sûr, l'Esprit, c'est le consolateur. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Quand on est dans une soupir de tristesse, on est dans vraiment, comment est-ce que je peux dire, au fond, quoi, quand on peut pas exprimer la douleur et la tristesse qui est en nous, eh bien, c'est l'Esprit qui est là, qui nous console d'une façon extraordinaire.
Je voudrais aller dans le même sens qu'elle. Moi, quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, c'était un soir en Côte d'Ivoire. Il y a une dame qui est passée chez moi. La nuit, en ce moment, il y avait la crise et il y avait le coup feu. Et la dame est passée par le couloir derrière et elle a frappé. Et puis je dis, à cette heure-là, qui peut être dehors? Parce que tout le monde devait être à la maison. Et quand j'ai ouvert, elle insistait. Quand j'ai ouvert, je dis oui. Elle dit, excusez-moi, mais je vais dans une commune à Yopougon. Est-ce que vous pourriez me donner de l'argent pour payer mon transport? Et moi, le lendemain, je devais sortir et j'ai traversé tellement de moments difficiles. Et l'argent que j'avais, c'était juste pour prendre mon taxi pour partir le lendemain. Parce que je devais voir ma grande soeur pour qu'elle me remette un peu d'argent pour faire mes courses après. Mais la dame a dit qu'il faut. Puis je dis, mais si j'enlève cet argent là-dessus, demain, je ne pourrai pas partir. Mais elle insistait tellement, j'ai pris la pièce et je lui ai remis. Et elle est partie, elle partait dans le couloir, elle s'est arrêtée. Et puis moi, je la regardais partir, elle a fait un regard comme ça, elle m'a regardée. Et puis elle est repartie. Je rentre dans la maison, je suis envahie par quelque chose que je ne peux pas exprimer. Et je rentre dans la chambre, c'est terrible. Et je me suis retrouvée en train de parler des choses que je ne savais pas ce que c'était. C'est comme ça mon baptême m'est arrivé. Je commençais à parler, ça m'a pris pratiquement toute la nuit. J'étais en train de parler. Et le lendemain matin, j'ai un de mes pasteurs qui me suivait, qui est passé me voir. Il m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te remettre un peu d'argent. Comme s'il savait. Et donc j'ai vu que c'est la sensibilité. En fait, j'ai été sensible au problème de la personne, de la dame, et parce que j'en avais besoin, mais quand même. Et puis, le Saint-Esprit a pris. Et c'est comme ça mon baptême m'est arrivé. Et puis bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté depuis 2001.
J'ai un témoignage d'un frère, là, tout récent, et ça fait un mois. Et il était en demande, il voulait apprendre l'hébreu. Et un dimanche matin dans l'église, il apportait des dons. Et un dimanche matin dans l'église, il a apporté un don. Bon, lui ne savait pas, évidemment. Et après le culte, une dame est venue le trouver. Et elle lui dit, mais vous connaissez l'hébreu? Il dit, non, justement, je voudrais l'apprendre. Alors, elle était elle-même juive et parlait l'hébreu. Donc, elle lui a dit, mais ce que vous avez dit, c'est un hébreu parfait avec un accent bon. Alors, et elle dit, moi, je peux vous donner des cours d'hébreu si ça vous intéresse. Et là, on voit que le Saint-Esprit, il a répondu à sa demande, à lui, par un don. Et cette femme-là lui a dit, en plus, c'est pas mon église, je viens jamais dans cette église-là, c'est la première fois que je viens là, j'ai été poussée à venir là, je savais pas pourquoi.
Il y a d'autres témoignages?
En fait, moi, je veux témoigner par rapport au baptême du Saint-Esprit. Avant que je ne donne ma vie en fait au Seigneur, j'étais allée dans une église du renouveau charismatique parce que à l'époque, je cherchais vraiment le Seigneur et je suis rentrée vraiment dans ma chambre. J'ai vraiment cherché. J'ai dit à Dieu s'il existait vraiment qui se révèle. Et je me suis retrouvée en fait dans une église charismatique. C'est une église catholique, mais nous on allait à l'époque chanter, on donnait un petit peu d'argent et tout. Mais ce jour-là en fait, c'est nous qui devions chanter, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est un autre groupe qui est venu. Et ce jour-là en fait, nous on était là. Il y avait un grand tableau comme ça. J'étais heureuse de voir des chants vraiment défiler. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'à un moment donné, il parlait bien en français, mais à un moment donné, il se mettait à parler. Aujourd'hui, je sais que c'est le parler en langue, mais je ne savais pas. Et j'avais peur. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être c'est un coup d'état ou qu'est-ce qu'il... Donc, j'étais avec une amie et je lui ai dit, sortons en courant parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Donc, on est sortis vraiment. Je lui disais, dépêche-toi. Et on courait vraiment dans l'église. On sortait vraiment en courant. Et moi, j'étais là, je guettais, je disais, il faut qu'on soit sûr qu'il me reparle encore français. Et je guettais, et quand il recommençait à parler français, on rentrait. Et quand il recommençait à parler en langue, j'ai dit, dépêche-toi, parce que là, je sais pas pourquoi il parle d'autres langues, en fait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? En fait, pour moi, c'était comme un, je sais pas, en fait, je croyais qu'il préparait des coups, mais j'avais une pensée vraiment noire, quoi, et je sortais, elle avec sa fille, je disais, cours, donc on sortait en ligne, en courant. Et donc, vraiment, c'est là, le Seigneur est bon parce que quand il nous voit, je suis vraiment fait des choses, c'est sûr qu'il nous regarde et il rit vraiment parce que l'homme parfois est bizarre. Donc ça n'a pas tardé, vraiment, ça fait peut-être une semaine ou deux, et vraiment le Seigneur s'est révélé en moi. Je marchais, j'étais en route comme ça, et j'ai confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis je me suis dit, mais pourquoi j'appelle Jésus ici? En fait, vraiment, ma conversion, elle était... c'est pas quelqu'un qui m'a demandé de confesser Jésus, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit. Et tout ça, je ne savais pas. Et je suis allée dans une église où le Seigneur m'avait envoyée. Et la femme de mon pasteur, en fait, elle parlait en langue. Et j'avais déjà oublié tout ce que j'avais vécu dans l'église charismatique, parce que je ne savais même pas que c'était le parler en langue. Mais là, j'étais réellement convertie. Et quand je suis rentrée dans l'église, dont la femme de mon pasteur est parlée en langue, et je me suis dit, ça, il me faut, parce que c'est sûr qu'elle est près de Dieu, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Donc, moi, comme j'avais tellement soif de Dieu, donc quand elle passait dans le couloir, tout ce qu'elle racontait, moi aussi, je mettais la main sur les lèvres et j'imitais tout ce qu'elle disait. Parce que moi, en fait, j'imitais tout ce qu'elle disait parce que je me disais, c'est sûr qu'elle est vraiment proche de Dieu là, quoi. Qu'est-ce qu'elle. Elle a sûrement une puissance, vraiment, mais. Donc. Elle ne savait pas, mais chaque fois qu'elle passait tout ce qu'elle racontait en langue, moi, je mettais la bouche et je répétais tout. En fait, j'étais comme un perroquet. Donc, j'avais vraiment cette soif d'être près de Dieu, quoi. Pour moi, le parler en langue, c'était vraiment qu'on est vraiment très près. Ça veut dire que Dieu est là, nous aussi, on est là, quoi. Tout ce qu'il fait, nous, on est là. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idée que j'avais. Et j'avais vraiment cette soif de parler. Je me disais qu'en parlant vraiment en langue, j'étais vraiment, voilà quoi, associée avec Dieu. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'énorme, en fait. Et un jour, on est allé en temps de prière, et il y a un pasteur qui a dit, aujourd'hui, le Seigneur me demande de parler du baptême du Saint-Esprit, et vous tous là, vous allez être baptisés. Et moi, j'ai été vraiment baptisée. On a été tous baptisés, mais moi aussi, j'ai été baptisée. En fait, ce que je veux dire, c'est que le parler en langue, c'est vraiment pour amener les gens qui ont peut-être peur, ou qui se disent « Waouh, c'est sûrement les grandes personnes qui parlent en langue. » C'est vraiment... Non, il faut vraiment être... Non, c'est vraiment un don gratuit. Dieu, il le donne simplement. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas se prendre la tête. C'est... Moi, j'avais tellement élevé le parler en langue. Je me disais « Il faut être vraiment grand pour... » Mais vraiment, le Seigneur, il nous donne ça. Il veut nous donner ça vraiment de manière gratuite. Et il n'y a rien de méchant dedans, c'est bon pour nous, en fait, quoi. Amen.
Alléluia, c'est vrai que c'est... Je sais pas si ça... C'est gratuit, oui, il n'y a pas de mérite, en fait. Il n'y a pas besoin de remplir des conditions. C'est un don. Ça va avec le salut, avec tout. C'est la promesse pour nous. Et Paul disait, moi, je parle en langue plus que vous tous. Chez lui, bien sûr. Et moi, je sais que personnellement, quand je suis chez moi, c'est plus facile pour moi de parler en langue que de parler avec l'intelligence. C'est plus facile, c'est plus simple. Et je parle plus en langue qu'avec l'intelligence chez moi. Mais quand je suis au milieu de mes frères et sœurs, je pense aussi à mes frères et sœurs et je parle. Je prie avec l'intelligence. Voilà. Quand on est aussi dans l'intimité entre chrétiens, on peut se permettre de parler en langue. Mais il est vrai que le parler en langue dépasse l'intelligence et fait que c'est plus facile de dire des choses, comme disait Dina, ça c'est du direct. C'est pas obligé de passer par les canaux les catégories des mots, etc., qui sont dans notre cerveau. Ça passe en direct de l'esprit à notre bouche. C'est tellement plus simple et c'est un don merveilleux que personne surtout ne s'en prive. Au contraire, mais c'est pour chacune de nous et que celles qui ne sont pas baptisées dans l'Esprit le soient, que nous qui le sommes soient renouvelées. Et si vous voulez, on va prier ensemble, Valérie, Johanna. On va avoir un petit temps pour terminer dans l'unité, tout ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer avec juste le piano, Johanna, je vais prier un peu, puis après, chacune de vous, si vous souhaitez, pouvez aussi. Alléluia, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, tu nous as réunis, Seigneur, et qu'il est bon d'être ensemble. Je veux vraiment, Seigneur, cette unité que tu fais, que tu mets entre nous, Seigneur, elle est belle. Cette communion, Seigneur, que tu crées entre nous, elle est précieuse et nous voulons la chérir dans nos cœurs. Nous voulons l'entretenir et la développer, car elle est précieuse à ton cœur, précieuse à nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons nous porter les unes les autres, nous soutenir, nous exhorter les unes les autres, Père, pour te faire plaisir, Seigneur, et aussi pour nous bénir, parce que nous nous aimons, Seigneur, comme tu nous as aimés. Ton amour a été répandu par ton esprit au milieu de nous. Qu'il en soit ainsi encore et toujours plus au milieu de nous, Seigneur, au milieu de ton peuple. Et ce soir, je veux te recommander mes sœurs. Père, je te recommande tes filles. Père, je t'apporte tes filles bien-aimées. Oh, je te les recommande, Seigneur. Alléluia. Tu vois ce temps de séparation, cet été, ce temps de vacances. Père, je te recommande chacune de ces femmes, de ces sœurs bien-aimées. Oh Seigneur, tu es en elles, avec elles, autour d'elles. Seigneur, tu ne les quittes pas. Tu ne les quittes pas à chaque pas, à chaque instant, chaque matin. Je te demande, mon Père, de les rafraîchir, de les renouveler dans ta présence. Je te demande une nouvelle onction, une fraîche révélation de toi, de l'assurance qu'elles sont aimées. Seigneur, toi, tu sais parler au cœur. Et je te demande, Père, parce que tu dis que si nous savons, nous qui sommes méchants, donner de bonnes choses à nos enfants, toi, combien plus forte raison, tu nous donneras ton esprit. Et je réclame, Seigneur, pour nos sœurs là, pour nos bien-aimés, nos amis, ton esprit. Que chacune reçoive sa provision, Seigneur. Sa provision, que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit, le renouvellement, mais que chacune soit remplie du Saint-Esprit. Ô cher Saint-Esprit qui nous est si précieux, nous t'honorons, Seigneur, et nous te reconnaissons. Souffle, Seigneur, sur nos vies. Viens remplir chacune de nous. Oh, viens souffler dans nos voiles, toi qui sais nous rafraîchir, toi qui sais faire toutes choses nouvelles. Alléluia. À toi revienne la gloire. Pour le Père et dans le Fils. Amen. Gloire à ton nom, Jésus.